Que tu nous parles, que tu nous conduis, Seigneur, dans nos réflexions et que tu nous permettes, Seigneur, de trouver en toi le refuge, la paix, le réconfort dont nous avons tous besoin. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu entends encore aujourd'hui, que tu réponds aux prières de tes enfants pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors, juste une petite annonce avant qu'on ne fasse la lecture. Je la répéterai bien sûr en fin de séance. Comme vous savez, à cause de la pandémie, on n'a pas pu tenir notre réunion générale des membres en mars. En fait, ça devait tomber le dimanche même où le confinement a commencé, le 15 mars. Donc, on ne pouvait pas tenir la réunion. On doit, par contre, on a compris qu'on doit malgré tout la tenir d'ici le 31 décembre. Donc, je vous annonce qu'on aura notre assemblée générale façon virtuelle. Sur Internet mardi prochain en soirée. Donc mardi le 22 décembre à 19h, on aura notre réunion ou notre assemblée générale des membres. Celle-ci ne sera pas sur Facebook, mais en tout cas, à moins qu'il y ait un changement, elle devrait être strictement sur Zoom, puisque la réunion est chose des membres de l'Église. On parle de différents dossiers, non pas qu'on a quelque chose à cacher, mais les dossiers financiers, on veut en parler simplement sur un média qu'on contrôle un peu mieux. Donc on sera sur Zoom. Donc pour participer, on vous demande, comme depuis le 15 mars, de nous aider avec la liste des membres, donc d'écrire au secrétariat de l'Église. L'adresse est facile, c'est secrétariat EAJC. Donc, pas d'accent, pas de majuscule, en un seul mot, secrétariat EAJC, en un seul mot, à commercialgmail.com. Vous donnez vos coordonnées, votre nom, numéro de téléphone, votre adresse courriel, une adresse qui fonctionne, qui est active, pour qu'on puisse vous contacter, pour vous donner le lien vers la plateforme Zoom que nous utiliserons le jour de la réunion générale, donc mardi prochain. À 19h. Ceci étant dit, permettez-moi donc de continuer avec l'enseignement du jour et on reprendra cette annonce un peu plus tard. Donc je lis pour vous dans le psaume 91, le psaume au complet, parce que c'est un psaume de bénédiction et je relirai par la suite le verset 7 qui nous sert de réflexion ce matin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et je reprends donc pour vous le verset 7 qui nous dit « Que 1 000 tombent à ton côté » et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien sûr, cette semaine, la semaine dernière, on parlait de la protection que Dieu nous donne. Et cette semaine, on allait dans la thématique de la crainte, de la peur qui très souvent vient capturer nos pensées, notre âme et notre esprit. Et on a vu tout au long de cette semaine le terme yare, craindre. dans la première phrase du verset 5 qu'on a répété au verset 7, et c'est toujours d'actualité au verset 7 aujourd'hui. Tu ne craindras pas. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ceux qui n'étaient pas là, on vous invite à revoir les enseignements des deux dernières journées. Mais le verset 7 va encore dans cette dimension de réfrendre ou réfréner la crainte, la peur. Donc tu ne craindras pas que 1 000 tombent à ton côté. Tu ne craindras pas que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras pas, donc le terme yare qu'on a vu depuis 2 jours, qui voulait dire ne pas magnifier, donc ne pas amplifier la menace que le diable pourrait représenter, toujours nous rappeler que cette menace, elle est tout de même inférieure à ce que Dieu est. À ce que Dieu domine, puisqu'il est le grand dominateur, puisqu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ne pas craindre, donc ne pas tomber ou ne pas crouler sous la pression, en sachant que notre Dieu, même face aux attaques les plus sévères et face aux ennemis les plus puissants, il est de toute manière plus fort que chacun d'eux et que même d'eux tous ligués contre nous. Et enfin, de ne pas être déstabilisé dans ce sens d'être ébahi, pantois parfois lorsque la menace vient. Certaines personnes bloquent, sont figées face au danger. Donc ne pas être déstabilisé en ce sens, mais de ramener toujours toute chose au fait que toute puissance, toute autorité a été vaincue par notre Dieu qui est sorti triomphant de la croix et du tombeau. Et la Bible nous dit à travers les lettres de Paul qu'il a livré en spectacle toute domination et toute principauté en triomphant d'elle par la croix. Alors ici, on nous parle de deux notions importantes. Ne pas croire, ne pas craindre lorsque l'on voit 1 000 tomber à notre côté et lorsque l'on voit 10 000 tombés à notre droite. Deux notions qui se ressemblent, mais qui ont quand même une portée précise pour l'une et l'autre. Et c'est simplement lorsqu'on étudie un peu plus les termes et les expressions hébraïques qu'on peut en comprendre toute la portée et en saisir probablement des facettes qui nous seraient obscures si on n'avait pas certains outils lexique ou autre pour interpréter ce texte. Donc, 1 000 tombent à ta droite, 1 000, le terme élève, E-L-E-P-H, je répète, élève, E-L-E-P-H, tomber, le terme nafal, N-A-P-H-A-L, N-A-P-H-A-L, et le terme côté, le terme tsad, T-S-A-D, je répète, T-S-A-D. Lorsqu'on parle d'une lecture de la parole de Dieu, elle peut être effectivement une lecture de premier niveau, quelle que soit la langue, quelle que soit la traduction et la version. Et je crois, et je suis quelqu'un qui enseigne, que même lorsque la Bible est lue de façon superficielle, parce qu'elle est parole de Dieu, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir eu l'effet pour lequel elle était proclamée. Toutefois, quand on en a la capacité, quand on en a les outils ou les habiletés, il est toujours intéressant d'aller un peu plus loin et de voir ce que la parole de Dieu peut nous mentionner au-delà de la surface qu'on peut lire avec une lecture simple dans les diverses traductions qu'on a. Donc aujourd'hui, oui, on pourrait parler comme quoi on ne doit pas craindre lorsque 1 000 tombent à notre côté, comparativement à 10 000. 1 000 est quand même bon nombre depuis le 15 mars où on connaît les confinements. Vous serez d'avis avec moi qu'aucun d'entre vous n'a été en présence de 1 000 personnes dans un même lieu ou très peu d'entre vous. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous auriez pu être rassemblés avec 1 000 personnes dans un même lieu, puisqu'on a connu ce qu'on appelle la distanciation La distanciation sociale, j'allais dire spéciale, elle l'est, mais elle est sociale avant tout. Donc, la Bible nous dit que même si tu voyais 1 000 tomber à ton côté, et quand on parle du côté, tout simplement, sans mentionner la droite, c'est donc la gauche, de ne pas avoir peur. Et par la suite, on nous parle des 10 000. Donc, on pourrait avoir cette lecture qui dit, mais lorsque le danger vient, même dans ses premiers balbutiements, où simplement 1 000 sont tombés, ne crains pas. Et lorsque le danger sera encore plus proche, encore plus prenant, et qu'il pourra toucher à 10 000 personnes cette fois-ci qui tomberont, ne crains toujours pas. Et ça serait déjà suffisant. Ça nous ramènerait et ça nous obligerait à retourner au terme Yare et de nous rappeler que même ce danger qui touche 1 000 et les 1 000 tombent, ne peut pas être plus grand que Dieu. Par contre, lorsqu'on parle de 1 000, il y a des notions à cette expression qui sont intéressantes. 1 000, c'est en fait le chiffre d'une compagnie militaire, pas d'un escadron, puisqu'un escadron, c'est une cinquantaine de personnes maximum habituellement, mais lorsqu'on parle d'une troupe, d'une compagnie militaire, on parlait de 1 000 personnes. Et voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque des recommandations vont être données à Moïse quant à diviser le peuple, il va dire que certains sont des chefs de 10, de 50, de 100, de 1 000. Et 1 000, c'est donc une compagnie, c'est donc un groupe militaire dans lequel se trouvent des escadrons, dans lequel se trouvent d'autres groupuscules, mais lorsqu'on les rassemble, ce régiment, cette compagnie, habituellement dans la culture juive, romaine, grecque de l'époque, une compagnie était constituée de 1 000 personnes. Et rappelons-nous, ici on parle du roi David, donc d'un roi qui est un militaire à la fois. Il a été berger, mais par la suite il est devenu un guerrier. Premièrement devant Goliath, mais après ça, il a fait carrière militaire sous les ordres de Saül, premièrement, puis à la tête de l'armée de Saül, et par la suite à la tête de l'armée d'Israël, en étant lui le monarque du pays d'Israël. Donc lorsque David va dire le terme Eleph, il ne parle pas simplement d'un numéro, d'un chiffre ou d'un nombre de soldats aléatoires, mais il parle vraiment de 1 000 chefs militaires qui sont à ses côtés et qui sont proches de lui, sa compagnie, sa troupe militaire. Donc ici, la Bible est en train de nous dire, même lorsque tu verrais tes frères d'armes tomber ou venir à sombrer, face à la peur, parce que c'est l'ennemi dont nous parlons cette semaine, la peur des différents domaines qu'on a mentionnés les 2 jours précédents. Donc on nous dit, même s'il y en avait 1 000 de tes proches, de tes soldats, de tes guerriers, de tes hommes aguerris au combat, même si 1 000 tombaient sous la menace, ne crains pas, tu ne seras pas atteint. Et ça, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on retourne à l'histoire de David concernant Goliath. Très souvent, on se rappelle de l'histoire où David va affronter Goliath, mais on ne se rappelle pas du préambule. Et depuis 40 jours, le soldat Goliath, le guerrier Goliath, un guerrier philistin, se présente régulièrement durant la journée sur le front de bataille en disant, donnez-moi un homme qu'on puisse se battre. Si je le bats, vous nous êtes soumis, vous devenez nos esclaves. Et si lui me bat, à ce moment-là, nous, en tant que peuple philistin, nous vous serons soumis. Et la Bible nous dit que les hommes sont à la guerre, dont les frères de David, et lorsque Goliath se présente, tous vont se cacher, même derrière des grosses pierres, parce qu'ils ne voudraient pas qu'on pense qu'eux veulent défier Goliath, mais ils ont tous peur et tremblent face à la menace. Donc c'est à cette image que se réfère le roi David lorsqu'il nous dit que 1 000 tombent à ton côté. Ce n'est pas 1 000 guerriers qui tombent morts, Ce n'est pas 1 000 guerriers qui tombent dans la maladie, mais c'est 1 000 guerriers qui tombent dans la crainte. Et sachons une chose, personne d'entre nous n'est à l'épreuve de la peur. Personne d'entre nous n'est pas sujet à craindre. Ne pas sombrer dans la peur et dans la crainte est aussi un travail qui nous est demandé. Ne pas fléchir face à la menace est un travail qui nous incombe à nous. Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage, Dieu fortifie notre foi, mais de ne pas partir se coucher derrière un rocher pour se cacher, c'est notre décision. Et David va prendre la décision d'affronter peut-être des craintes, d'affronter la menace face à face sans aller se cacher. Pourquoi? Parce que David va se rappeler, et dans tout son discours préalable à sa rencontre avec Saül, préalable à son combat avec Goliath, il va rappeler, mais nous sommes l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes le peuple d'Israël. Et il va dire, qui est cet incirconcis qui vient mal parler de notre Dieu et qui vient menacer son peuple? Donc pour David, il était très clair que, étant peuple de Dieu, étant enfant de Dieu, lui étant serviteur de Dieu, il n'y avait d'autre choix que d'être vaillant. Il n'y avait d'autre issue à ce combat qu'une victoire. David en était assuré, mais l'ensemble du peuple d'Israël a eu peur. Lorsqu'on regarde une autre histoire qui m'est très chère, l'histoire de Gédéon, on se rappelle, il y a Madian, qui est un peuple aussi nombreux qu'un nuage de sauterelles, qui vient se positionner chaque année en Israël, et qui vient voler les récoltes, vient piller le sol d'Israël avec des raids qu'ils font régulièrement à la période de la récolte, de la moisson ou de la vendange, et retourne par la suite ayant appauvri Israël et laissant Israël dans la disette. Lorsque Gédéon va convoquer les hommes d'Israël pour se battre, ils sont tout d'abord 32 000. Et Dieu va lui dire, ils sont trop nombreux, laisse partir ceux qui ont peur. Et de ceux qui ont peur, 22 000 vont partir. Alors que c'est des hommes qui ont connu la conquête, ce sont des hommes qui ont connu la victoire que Dieu avait accordée lorsqu'on rentrait dans Canaan. C'est des hommes qui avaient expérimenté le combat et malgré tout, plusieurs, mais le deux tiers d'entre eux, vont quitter sous la peur. Donc personne d'entre nous n'est à l'abri de la peur. Il nous faut, pour combattre la peur, revenir à Yahvé, revenir à la crainte, à ne pas avoir cette crainte, dans le sens où je n'ai pas à magnifier la puissance de l'ennemi parce que mon Dieu est supérieur à cet ennemi. Je n'ai pas à crouler sous la pression parce que mon Dieu est plus fort que cet ennemi. Et je n'ai pas à rester béat, pétrifié face à la peur. Je dois continuer à travailler et à avancer. Pourquoi? Parce que je sais déjà que cet ennemi est vaincu. Et cela, on le voit clairement, tant dans l'attitude de Gédéon qui va être fortifié par Dieu, et tant dans l'attitude de David qui va être fortifié par Dieu. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, en toute fin, d'un outil que Dieu a utilisé pour Gédéon, qui était fantastique quant à moi. L'autre pensée qu'il y a après, c'est que 1 000 tombent à ton côté. Tomber, c'est se prosterner, être renversé, se sentir abandonné, le terme nafal qu'on a vu tout à l'heure. Et tomber à son côté, c'est se dérober ou disparaître. Voilà pourquoi on n'est pas en train de parler ni de la maladie, ni de la mort. Lorsqu'on étudie clairement ces termes-là, ce qui est en train d'être dit par la bouche de David et sous l'inspiration du Seigneur, c'est que on ne doit pas craindre au point de se dérober au combat, au point de se prosterner ou se prostrer ou abandonner et capituler devant la peur. Nous devons combattre et vaincre la peur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est vainqueur. L'autre pensée, que 10 000 tombent maintenant à ta droite. Deux faits intéressants. Bon, 10 000, le terme rebabar, donc R-E-B-A-B-A-H, je répète, R-E-B-A-B-A-H, et ici 10 000, l'interprétation littérale du terme, si on fait une traduction mot à mot du terme, 10 000 va vouloir dire ici dans rebabar, va nous parler d'une multitude, d'une myriade ou d'une foule nombreuse. Et ici, lorsqu'on parle donc de la multitude, lorsqu'on utilise le terme rebabar, on parle de l'ensemble du peuple et non pas d'une façon encore numérique avec un décompte de 10 000 personnes. Mais on parle de la nation même d'Israël, la multitude d'Israël. Donc il dit tout à l'heure, 6 000 tes soldats aguerris tombent, et maintenant si même l'ensemble du peuple venait à avoir peur et toujours tomber à la droite, le terme Yamin, qui veut dire, ben je l'appelle tout d'abord Yamiym, qui veut dire le côté puissant. Lorsqu'on parle de la droite versus la gauche, dans la pensée judaïque, la droite représentait toujours la puissance, la force, l'autorité. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est pas la droite géographique de Dieu, c'est la droite, la puissance même de Dieu. Il est assis dans l'autorité parfaite de Dieu. Alors ici on nous dit, et que 10 000 tombent à ta droite. Donc même si la multitude, dans son état le plus fort, au moment où elle est au sommet de sa gloire, venait à tomber dans la crainte, toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne seras pas atteint. Très souvent, on peut être brave quand on est tout seul, mais tout d'un coup, nous étant au milieu d'un groupe qui se met à paniquer, nous venons tous à paniquer. Je vais vous raconter certaines petites blagues qu'on faisait à l'époque où j'étais au lycée en France. Il y avait une rue piétonne et il y avait, dans notre classe, on était peu de garçons, on était 3 garçons, on était dans une branche littéraire, on préparait la première et la terminale littéraire. Donc les 3 garçons se tenaient toujours ensemble et on allait se promener dans nos temps libres ou après l'école au centre-ville. Et on avait vu des émissions de caméras cachées. Donc on marchait sur la rue et quand on croisait quelqu'un, au même moment, nous les 3 copains, on se penchait et on se couvrait la tête comme si quelque chose allait tomber. Et on continuait par la suite à marcher tranquillement comme si de rien n'était. Donc la personne qu'on croisait, qui nous voyait nous protéger la tête, elle-même commençait à paniquer et se mettait à courir et regardait pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et ça, c'est juste pour exprimer la pensée du fait que la peur se communique. Donc parfois, lorsqu'on est au sein d'un groupe qui se met à paniquer, on est aussi, nous, sujets à cette panique. Et voilà pourquoi, dans un temps comme actuellement, je trouve important, dans une période comme on vit maintenant, je trouve important de ramener notre auditoire, de ramener ceux qui écoutent nos bénédictions matinales, sur le fait que notre Dieu reste malgré tout plus puissant que quoi que ce soit qui se passe ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce que par l'entremise de ces bénédictions, l'objectif premier qu'on a, c'est que vous soyez effectivement bénis, mais aussi fortifiés dans votre foi. On ne vous raconte pas des pipeaux et des histoires sur le fait que Dieu est tout-puissant, on veut juste le ramener à votre pensée. On veut juste s'assurer que la pensée que vous avez, contrairement peut-être à ce qui peut se prêcher ailleurs, à ce qui peut se témoigner ailleurs, comparativement à ce qui peut s'écrire sur les réseaux sociaux ou se lire dans les médias, notre Dieu reste malgré tout au contrôle, même dans cette situation, et notre Dieu reste malgré tout le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il domine malgré tout ce qu'on pourrait dire, il domine même sur la COVID-19 et même sur cette pandémie. Alors il est important pour nous, même si tout le monde se mettait à paniquer, de ramener nos pensées dans la pensée du Yahweh, craindre, donc savoir que notre Dieu est supérieur à cette pandémie, savoir que notre Dieu est plus fort que tout ennemi, que cet ennemi s'appelle pandémie ou que cet ennemi s'appelle gouvernement, peu importe dans quel clan vous êtes, c'est même pas important pour moi de savoir si c'est un complot, si c'est une conspiration ou quoi que ce soit. Mon Dieu même est plus grand que cette conspiration éventuelle qui pourrait y avoir. Mon Dieu est plus grand que cette maladie réelle ou fausse qui peut y avoir. Peu importe ce qui se passe actuellement, mon Dieu est plus fort. Et mon objectif est de prêcher sur Dieu. Mon objectif est de rappeler à ses enfants que nous sommes, que notre Dieu est plus grand et plus fort et que notre Dieu a déjà vaincu tout ce qui se passe actuellement. Donc même si tous nos frères d'armes, tous nos vaillants guerriers se mettaient à paniquer, moi je dois ramener mes pensées sur le fait que Dieu domine. Même si l'ensemble du pays se mettait à paniquer, je dois malgré tout, même si j'étais le seul à rester sur cette position-là, je dois me rappeler que mon Dieu est puissant et que mon Dieu est vainqueur. Tu ne dois pas craindre. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas atteint. Mais quelle est la façon de ne pas être atteint? Et encore là, on ne parle pas de la menace, on ne parle pas de la maladie, on ne parle pas de la guerre, on parle de la peur. Comment je peux ne pas scrouler et tomber sous la peur? Mais en me rappelant qui est avec moi, en me rappelant qui campe avec moi, cette histoire du serviteur d'Élysée dont les yeux spirituels vont s'ouvrir pour voir l'armée grandiose, l'armée céleste qui campe à ses côtés, cette histoire de Josaphat qui va voir l'Éternel combattre et le peuple d'Israël qui l'accompagne, qui va voir avec Josaphat Dieu combattre pour eux depuis la montagne et ils vont voir les troupes ennemies s'entretuer miraculeusement, on va dire, ou par l'intervention divine. Cette histoire de Gédéon qui va voir Madian être vaincu, tomber dans la panique. Cette histoire de David qui d'un petit caillou va faire tomber Goliath et va rendre le peuple, va donner au peuple philistin une de ses pires défaites de l'histoire. Je vous disais qu'il y avait un élément que Dieu utilise aussi pour nous aider face à la peur et c'est dans l'histoire de Gédéon. Juste avant ce dernier combat où Gédéon va se présenter, va entourer le camp de Madian depuis les collines avec des cruches, avec des lanternes ou des flambeaux qui sont cachés dans les cruches et des trompettes. Et ils ne sont que 300. Je vous rappellerai, Dieu a permis à ce que 22 000 qui avaient peur qu'ils s'en aillent. Dieu a permis par la suite que 9 700 hommes qui n'étaient pas prévoyants, qui n'étaient pas prudents, qui sont arrivés près du cours d'eau, ils se sont mis à se gaver d'eau sans faire attention à la menace. Donc Gédéon n'a gardé que 300 personnes à ses côtés. Un pour dépendre de Dieu et deux parce que c'était des gens qui étaient acquis à la cause et qui étaient minutieux dans leur travail, qui malgré la menace continuaient à avancer. Et ces 300 sont armés simplement de cruches, de flambeaux et de trompettes. Mais la veille de cette victoire grandiose de Gédéon, Dieu va lui dire, va te cacher, rentre en secret dans le camp de Madian, va jusqu'au centre de la tente, du camp, et je te parlerai. Et Dieu lui dit, si tu as peur de descendre, si tu crains d'y aller, amène avec toi ton serviteur Pura. Pura. Pura, on ne parle de lui qu'à cette occasion-là. C'est la seule fois de toute l'Écriture où on parle de Pura, serviteur de Gédéon. Et effectivement, Gédéon descend dans le camp de Madian avec Pura. Ça veut donc dire que Gédéon dit à Dieu, j'ai effectivement peur, donc je n'irai pas tout seul. Mais accompagné de Pura, il n'a pas peur de descendre dans le camp de Madian. Ça veut dire que Pura était un outil entre les mains de Dieu, était un instrument entre les mains de Dieu pour susciter la vaillance, pour susciter le courage, l'hardiesse dans la vie de Gédéon. Je prie que dans ta vie, tu aies de tels puras. Je prie que dans ma vie, il y ait effectivement de tels puras. Et j'en ai. Parfois, il y a des décisions difficiles à prendre et Dieu a placé autour de moi des personnes qui sont là et qui m'encouragent par leur propre courage. Parfois, c'est des situations qu'ils ont eu à traverser et je les regarde aller et je me dis, ils ont tellement été flamboyants dans un combat terrible qu'ils ont eu à mener qu'ils vont me servir d'exemple. Ils me servent de puras qui motivent, qui énergisent mon courage, mon hardiesse et ma bravoure. Ça nous prend de tels hommes et de telles femmes dans le peuple de Dieu, qui au lieu de céder à la panique et d'encourager la panique, vont plutôt encourager la force, la vaillance et la bravoure. Il y a un serviteur ou un disciple qui accompagne Jésus lorsqu'on lui dit que Lazare est décédé, qu'ils doivent donc aller vers Jérusalem, à Béthanie, plus précisément pour voir, assister à l'enterrement de Lazare, qui va devenir plutôt une résurrection plutôt qu'autre chose. Et les disciples disent à Jésus, « Mais tu veux retourner à Jérusalem alors qu'on t'a menacé de mort et tu sais que les Juifs veulent te tuer. » Et Jésus va leur dire, « Non, je dois y aller et je vais y aller. » Et il y a un des serviteurs qui s'appelle Didyme, Thomas appelé Didyme. Et Didyme va dire, « C'est ça, allons-y. » et mourons avec lui. Mais il ne le dit pas dans le sens, « Ouais, moi je suis prêt à mourir pour Jésus. » Il est en train de dire, « C'est une mauvaise décision, et si on y va, on va aussi mourir avec lui. » Ce Didyme-là n'encourage pas la bravoure, mais encourage le découragement. Il fait partie des 1000 qui sont tombés, qui se sont cachés, qui sont allés se répandre derrière un rocher pour ne pas être... face à la menace. Ils font partie, Didyme fait partie de ce peuple tout entier qui va craindre la plaie, qui va craindre la menace. Ça nous prend des purins, des hommes, des femmes qui vont nous encourager à aller de l'avant, à ne pas céder, à continuer à travailler malgré la menace, malgré le danger. Alors je prie que tu sois un tel instrument dans la vie de tes bien-aimés, de ceux qui t'entourent. Je prie que tu aies aussi de telles personnes qui t'encouragent autour de toi et je prie d'être ainsi entouré et aussi ainsi utilisé par Dieu pour vous encourager. Alors, ceci étant dit, voilà ce que nous avions pour ce matin. Ne crains pas, même si 1000 tombent à tes côtés, même si 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint par la peur si tu te rappelles que ton Dieu est supérieur, que ton Dieu est plus fort et que ton Dieu a déjà vaincu. Alors, prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce et merci pour ce rappel que nous pouvons trouver en toi et trouver auprès de nos frères et nos sœurs en la foi des gens qui seront une source d'encouragement. Mais je prie, Seigneur, pour chacun de ceux qui m'écoutent ce matin, qu'au lieu d'être des dispensateurs de la crainte, de la terreur, des dispensateurs de la menace, qu'ils soient plutôt des dispensateurs du courage, des dispensateurs de l'hardiesse, ramenant les regards non pas sur la menace qui nous guette, mais ramenant nos regards sur le Dieu qui a piétiné et qui a fait de l'ennemi son marchepied et qui nous accorde à nous aussi victoire. Alors je prie que ma sœur et mon frère, aujourd'hui, soient encouragés et soient des instruments de courage pour tous ceux qui les entourent. J'appelle ta paix, ta sérénité et ta quiétude dans leurs pensées. Tu campes avec eux. Tu es celui qui est supérieur à tous. Tu es celui qui est plus fort que tous et tu es celui qui a tout vaincu. Pour nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, quelques salutations ce matin de ceux qui se sont joints à nous depuis notre dernière, depuis le début de l'enseignement. Simplement vous rappeler, on est mercredi, donc on a rendez-vous ce soir avec le pasteur Sergio pour notre étude biblique sur le livre de Marc, sur l'évangile de Marc, avec la thématique Servir Dieu en temps de défi. Et puis donc ce soir à 19h, heure de Montréal. On vous rappelle aussi, comme on l'a fait en début de séance, mardi prochain, 22 décembre, à 19h, nous tiendrons sur le réseau Zoom ou sur la plateforme Zoom notre assemblée générale des membres, appelée habituellement réunion d'affaires, réunion financière. Donc, on est tenu par la loi de faire cette réunion avant le 31 décembre. On avait eu le droit de repousser en raison de la pandémie, mais on nous donne donc jusqu'au 31 décembre. On le fera donc sur Zoom. On vous invite pour participer. Ça vous prend d'être sur la liste de membres de l'Église. Donc, comme on le fait depuis le début de la pandémie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, envoyez vos coordonnées à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église. Donc, votre nom, votre numéro de téléphone, ainsi qu'un courriel qui est actif, vous écrivez à secrétariat EAJC. En un seul mot, sans accent, sans majuscule, secrétariat EAJC. Donc, Secretariat EAJC, en un seul mot, à commercial gmail.com. Secrétariat EAJC, à commercial gmail.com. Que vous soyez membre de l'Église depuis des dizaines d'années, que vous soyez membre de l'Église depuis peu, on vous demande vraiment d'envoyer vos coordonnées à cette adresse. C'est par là qu'on va envoyer le lien vers la réunion Zoom de mardi prochain, réunion d'affaires à 19h. Alors sur ce, permettez-moi de saluer quelques personnes ce matin. On a déjà salué la dernière personne, je pense que c'était Jude et Suze. Donc bonjour à ma sœur et à mon beau-frère en France, Marlène et Juan Carlos. Bonjour à Leandro et à Lilian s'il est là. Bonjour à Tatiana. Bonjour à Babette. Bonjour à Jimmy. Bonjour à la sœur Ozani, bonjour à Florie et à Louis, bonjour à Diana, bonjour à Marie-Huguette, bonjour à Natacha et à Indirène, bonjour à Farley et sa maman Marie-Andrée, bonjour à qui d'autre? Bonjour à Diane, bonjour à Andrés, Samantha. Et bonjour à Gérard et Denise. Voilà, donc c'était tout. Rendez-vous ce soir à 19h avec le pasteur Sergio. Et nous, on se retrouve demain matin, 8h30, 8h18 pour les salutations, pour notre prochaine bénédiction matinale. Je vous lève mon café. Soyez forts, soyez vaillants, soyez courageux. Votre Dieu est plus fort que tout ce qu'il y a contre vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir avec le pasteur Sergio demain matin ensemble. Ah, n'oubliez pas, envoyez vos coordonnées à l'église. Bye bye tout le monde.